Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette derrière le micro pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Et je reçois deux femmes qui ont beaucoup en commun. Essayez un hasard, quoique on pourrait dire qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, deux femmes engagées pour une meilleure santé des populations qui militent toutes les deux très concrètement pour le mieux-être des Québécois, que ce soit auprès des gouvernements, aussi pour l'adoption de lois en matière de prévention, pour favoriser de saines habitudes de vie et qui tentent, et ça, ce n'est pas rien, d'amenuiser les inégalités en matière de santé. Donc, en deuxième partie d'émission, Lucie Granger est la directrice générale de l'Association pour la santé publique du Québec qui nous rappelle que prévenir d'abord au lieu de guérir est nettement préférable. Elle nous parlera de cet énoncé de position émis par son association sur la santé durable au moment où, je vous le rappelle, la moitié de la population québécoise, donc 50% des personnes ici en province âgées de 12 ans et plus, est touchée par une maladie chronique. Aussi, la Coalition québécoise sur la problématique du poids qui est menée par Corinne Voyer a décidé à la fin du mois de février d'appuyer la nouvelle coalition pan-canadienne Stop Marketing to Kids pour demander au gouvernement fédéral d'interdire le marketing d'aliments et de boissons auprès des enfants. Et lorsque j'ai parlé de ce sujet-là autour de moi, les gens réagissaient, me disaient, mais voyons, me semble que c'est déjà illégal ici au Québec. Et vous avez raison, le Québec, c'est la seule province canadienne à bénéficier d'une loi qui interdit la publicité auprès des enfants. Et ça, c'est depuis 1980. Mais il y a certaines exceptions qui demeurent problématiques. On pourrait penser aux emballages des produits, aux présentoirs, dans les marchés, aux sites familiaux aussi qui sont aménagés là, lors de différents événements. Ce sont des exceptions qui, vous le devinerez, sont favorables pour les industries et c'est beaucoup de tactiques qui sont encore socialement acceptées. Comment on reste vigilant face à cette publicité qui s'adresse à nos enfants? J'en parle à l'instant avec Corinne Voyer. Corinne Voyer, bonjour.
Bonjour, bon après-midi.
Bon après-midi à vous aussi. Bonne journée internationale du droit des femmes, Corinne.
Merci à toutes les femmes aussi qui écoutent aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, on parle d'un sujet important et surtout assez présent dans l'actualité. Dernièrement, un comité sénatorial a rendu public un rapport qui émet 21 mesures pour contrer l'épidémie d'obésité au Canada. Et la deuxième recommandation est extrêmement claire, Corinne. Elle propose d'entreprendre immédiatement une évaluation de l'interdiction de la publicité pour des aliments qui sont destinés aux enfants, ce qui nous prouve que c'est une tactique qui a des impacts négatifs sur la santé de la population.
Oui, effectivement. Au Canada, je pense que c'est près de 90 % de la publicité au niveau alimentaire là, qui est ciblée vers les enfants. Puis c'est pas nécessairement des bons aliments. On parle souvent de publicité là, d'aliments de faible valeur nutritive, très sucrés, riches en sel, en gras. Et les enfants sont une cible extrêmement vulnérable avant l'âge de 13 ans. Ils n'ont pas la capacité critique de pouvoir juger des tactiques persuasives de la publicité. Donc, il faut les protéger.
On parle, je pense, de 90 % de ces aliments qui seraient à faible teneur nutritive.
Oui, c'est ça. Donc, plus que majoritairement, la plupart des publicités sont des publicités de malbouffe, là, si on veut mettre un nom. Donc, on n'est pas dans la valorisation d'aliments sains là, du tout dans une perspective plus sociale. Là.
Et ça, ça a des impacts, oui, d'une part sur la santé des enfants, mais aussi sur les dynamiques familiales, sur la santé des familles, parce que souvent, le parent veut plaire à son enfant en achetant ce genre de produits-là. Et là, c'est toute la famille là, qui va s'alimenter d'aliments un petit peu moins nutritifs.
On sait que les enfants influencent beaucoup le panier d'épicerie des familles parce qu'on voit un phénomène souvent en bas âge. Ils appellent ça le nagging. C'est que l'enfant harcèle le parent pour obtenir un produit. C'est un phénomène connu et bien documenté.
Ouais.
C'est pour ça qu'on retrouve des petits personnages, des fois de Walt Disney, sur des produits alimentaires. Souvent, c'est des produits comme des jus ou des boîtes de céréales ou des aliments, encore une fois, qui sont plus ou moins nutritifs. Nos épiceries regorgent de ce type de marketing-là, et vous l'avez bien introduit tantôt, ce sont des exceptions à la loi québécoise. C'est pour ça qu'on le marché, nos commerces d'alimentation sont des milieux fascinants où la publicité aux enfants se produit et une loi fédérale permettrait de mieux encadrer ça.
Quelles sont-elles, ces recommandations-là? J'en ai nommé quelques-unes. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Au niveau du rapport des sénatoriales qui a été déposé, il y a aussi une taxe sur les boissons sucrées à réinvestir en prévention parce que la boisson sucrée, et quand on parle de boissons sucrées, c'est boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, les eaux vitaminées, les thés glacés, les cocktails, on a vraiment une gamme de produits. Il faut le voir comme du sucre liquide, des bonbons. C'est le seul produit alimentaire qui est constamment associé avec l'obésité chez les enfants. Donc, c'est pour ça qu'il devient une cible au niveau des mesures ou des choses que le gouvernement peut faire parce qu'on en surconsomme. Et le lien avec l'obésité et d'autres maladies chroniques est très fort.
Et d'ailleurs, la Coalition québécoise sur la problématique du poids milite beaucoup pour cette taxation-là sur les boissons sucrées.
Bien, c'est une des mesures les plus prometteuses et les plus documentées à travers le monde. Il y a déjà le Mexique et la France qui sont des exemples intéressants qui ont adopté ce type de taxe-là et ils réinvestissent les sommes en santé. Ce qu'on a observé dans les deux cas, surtout au Mexique, c'est une baisse significative de la consommation de boissons sucrées. Donc, ça a son effet. Et au Mexique, c'était les plus grands consommateurs et les taux d'obésité sont vraiment alarmants. Donc, c'est une mesure prometteuse. Elle ne réglera pas la situation à elle tout seule, on s'entend, mais ça fait partie des premiers pas à faire.
Oui. Mais en fait, c'est que, d'une part, il est bien de s'adresser au gouvernement, aux décideurs, mais il y a aussi beaucoup de décisions qui sont prises au sein même de la famille. Mais c'est difficile pour les parents, parfois, de prendre des décisions éclairées parce qu'il y a tellement d'exceptions à cette loi, même ici au Québec. Comment le parent peut rester vigilant lorsqu'il fait l'épicerie avec son enfant?
Bien, c'est difficile. On va donner la chance aux parents. On sait que tout le monde a un rôle à jouer. Les parents peuvent faire un bout de chemin avec l'éducation. Mais quand le marketing aussi fort que l'industrie agroalimentaire le déploie, vient vraiment là encercler le parent, si on veut. Les parents se retrouvent dans des situations où ils sont coincés, où tu as l'enfant qui fait des crises à répétition à l'épicerie parce qu'il n'a pas réussi à obtenir la boîte de céréales de la rangée 1. Mais là, il y a un autre produit dans la rangée 2 puis un autre dans la rangée 3. Donc, l'idée, c'est que d'outiller, si on veut, les parents, ça passe par des mesures gouvernementales parce qu'il n'y arrivera pas seul malgré toute la bonne volonté qu'il veut y mettre. Puis une fois, il va être capable de résister, mais ça se répète à chaque semaine, l'épicerie, on est là constamment. Donc, il faut qu'on puisse créer des environnements où c'est plus facile de faire des choix santé que des choix moins santé.
Oui.
Donc, c'est pour ça qu'il faut intervenir à différents niveaux.
Et j'en parlais tout à l'heure, il y a des exceptions à cette loi-là. Oui, à l'épicerie même, avec les emballages, avec les présentoirs, mais aussi dans des événements familiaux avec des sites qui sont aménagés. Là, on le sait, il y a quelques années, il y a la ronde là, qui a été visée par ces exceptions-là.
En fait, au niveau de la ronde, Coca-Cola a plaidé coupable récemment pour de la publicité ciblée aux enfants. Donc, ça ne figurait pas parmi les exceptions.
Ah, d'accord.
Mais ça fait partie des nouvelles stratégies de l'industrie.
Mm-hmm.
Alors, on les retrouve de plus en plus présentes dans les événements ou les activités familiales qui font en sorte que le marketing n'est pas permis, mais c'est une nouvelle façon de faire. Donc, toujours avec la loi, comment on l'interprète, là, elle est où la ligne pour dire qu'est-ce qui est permis ou pas. Donc, maintenant, on sait qu'une publicité dans des événements ou dans une montagne de ski, par exemple, ce n'est pas permis. On peut dénoncer ces pratiques-là comme citoyen. Ça peut être directement à l'Office de la protection du consommateur ou via la Coalition Poids.
Mm-hmm.
Mais dans les exclusions qu'on a, c'est vraiment plus au niveau des étalages, des emballages, l'étiquetage, les présentoirs dans les épiceries, les vitrines. Ça, ce sont les exceptions qu'on va observer. C'est ça qu'on voit dans nos commerces d'alimentation.
Oui. Et souvent, lorsque vous voyez, c'est souvent des personnages de soit de princesses, de super-héros, des animaux, bon, des petits personnages, il faut être d'autant plus vigilant.
Absolument. Puis c'est des personnages qui sont choisis et testés. Là, si ça marchait pas, l'industrie les utiliserait pas.
Ouais.
Donc, si on regarde dans l'épicerie, même juste la façon dont les produits sont placés dans les étalages, ils sont à la hauteur des yeux des enfants. C'est vraiment un placement là, ciblé, dirigé pour que l'enfant, ce qui arrive, c'est qu'il va créer un lien affectif ou va même donner, va vouer sa confiance à ce produit-là parce que, bon, il est séduit par le personnage ou il reconnaît un personnage qu'il estime et ça vient influencer ses préférences, ses connaissances alimentaires. Et c'est pour ça que ça a une incidence sur l'obésité.
Et à long terme, voilà, sur la santé à long terme.
Tout à fait, parce que qui ne se rappelle pas du tigre, là, qu'on a sur nos boîtes de Frosted Flakes ou encore le toucan de Fruit Loops. Il y a plusieurs parents qui ont grandi avec ça. Même les bonhommes Rice Krispies, ils font encore leur chemin. Donc, ça vient marquer l'imaginaire à vie. Si on veut.
Oui, je reviens en terminant, Corinne Voyer, sur la coalition Stop Marketing to Kids. Quelles sont leurs requêtes? C'est une nouvelle coalition pan-canadienne, je pense.
Oui, c'est plusieurs organismes en santé, dont la Fondation des maladies du cœur. Il y a nous qui en sommes membres également. L'idée, c'est d'avoir une loi canadienne pour protéger les enfants des autres provinces. On a au Québec cette chance-là d'avoir une loi qui interdit la publicité aux enfants. Elle n'est pas parfaite, mais elle nous protège beaucoup par rapport aux autres enfants. On peut faire des comparaisons avec l'Ontario. Les petits Québécois sont nettement moins exposés à la publicité que les Ontariens. Donc, l'idée, nous, de se joindre à cette coalition-là, c'est de pouvoir répondre aux exclusions là, qu'on a présentement dans la loi québécoise, parce que tout ce qui est emballage, c'est davantage de juridiction fédérale. Donc, si ça pouvait être ramassé, on se retrouverait avec la loi parfaite qu'on voudrait.
Oui.
Et donc, on est plus dans un mouvement pan-canadien. L'idée de la coalition canadienne, c'est vraiment d'interdire la publicité alimentaire. Donc, peu importe le type d'aliment, l'enfant ne serait pas exposé à de la publicité alimentaire parce que c'est toujours difficile de tracer la ligne entre qu'est-ce qui est un bon aliment d'un moins bon aliment. Il y a plein de critères qui nous permettent de définir la malbouffe.
Oui.
C'est une zone grise. Donc, pour éviter de tomber dans ce piège-là, de toute façon, on n'abuse pas de la vulnérabilité d'un enfant, peu importe ce qu'on essaye de lui vendre. Donc, l'idée, c'est de protéger sur l'ensemble des produits alimentaires pour l'instant, parce que c'est pour des raisons de santé publique.
Ouais. Pourquoi les industries agroalimentaires ne pourraient pas associer ces personnages à des fruits, des légumes et des aliments dits santé?
Bien, encore une fois, on vient réutiliser une tactique de persuasion chez quelqu'un de vulnérable. Donc, éthiquement, nous, on n'est pas d'accord avec ce type de proposition-là parce qu'on abuse d'un manque de connaissances et du côté cognitif de l'enfant. Donc, éthiquement, c'est pas mieux. Puis, idéalement, toute forme de publicité aux enfants devrait être interdite, comme on a au Québec. Où toute forme de publicité aux enfants est interdite au Québec, que ce soit pour des produits d'assurance ou pour des produits alimentaires ou même les jouets. Les jouets ne sont pas... On ne peut pas faire la promotion de jouets auprès d'enfants directement.
Oui. Maintenant, pour la coalition québécoise sur la problématique du poids, avant de se quitter, Corinne Voyer, quels sont en ce moment les points chauds? Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Sur quoi vous militez là en ce moment?
Bien, bientôt, nous aurons au Québec une belle politique de prévention qui est promise par le gouvernement provincial, le ministère de la Santé.
Oui.
Elle est attendue avec pied ferme, on va le dire comme ça, où ce sera peut-être des ancrages pour nous de faire évoluer le Québec pour enfin réduire la problématique de l'obésité. Les boissons sucrées demeurent une priorité, donc cette politique-là devra minimalement avoir des mesures pour réduire la consommation de boissons sucrées, mais aussi favoriser l'accès aux aliments sains, on s'entend que les fruits et légumes sont pas les moins dispendieux sur le marché en ce moment.
Mm-hmm.
Donc, il y a une série de mesures là, qui peuvent être mises de l'avant, puis même au niveau de l'activité physique. On s'entend que l'activité physique est essentielle. C'est peut-être pas elle qui va régler la diminuer notre problématique d'obésité, mais ça reste un élément de santé nécessaire. Là, nos enfants sont de plus en plus sédentaires également.
Bon, on surveillera ça de près. Corinne Voyer, je le rappelle, vous êtes directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids. C'est toujours un plaisir de vous parler.
Bien, ça m'a fait plaisir. Bonne fin d'après-midi.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Lucie Granger, bonjour.
Bonjour.
L'Association pour la santé publique du Québec, dont vous êtes la directrice, a publié dernièrement un énoncé de position à l'adresse du gouvernement du Québec afin de bâtir la santé durable. C'est un terme qui est encore inconnu pour le grand public. En quoi ça consiste, là, la santé durable?
Bien, si je vous dis ça en résumé, l'approche durable de la santé, c'est plus de santé, plus longtemps par la prévention.
Mm-hmm. Et de la prévention, notre population en a de besoin parce que les chiffres sont clairs. À cet effet, 50 % de la population québécoise âgée de 12 ans et plus vit avec une maladie chronique, un problème donc de santé chronique. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez eu envie de mettre des paramètres auprès du gouvernement?
C'est très certainement pour cette raison. J'irai un petit peu plus loin au niveau des maladies chroniques. On parle ici d'obésité, on parle de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, on parle de diabète de type 2, on parle aussi de cancer. Puis, c'est un véritable fléau, vous l'avez mentionné, qui est social, il est humain, il est social, puis il est économique.
Oui.
Et puis, c'est bien important qu'on réalise que 80 % des cas de maladies cardiovasculaires et d'AVC, 80 % des cas de diabète de type 2 et plus de 40 % des cancers sont évitables. On peut les éviter, donc toute la souffrance qui vient avec ça, l'inquiétude, en adoptant de meilleures habitudes de vie. Donc, vous avez raison de dire, ce défi de santé pour nous est très important et il y a moyen d'agir sur différents facteurs pour diminuer de façon importante cette prévalence-là des maladies chroniques. Le deuxième élément, c'est que dans le budget de la province du Québec, près de 50 % du budget est investi pour soigner les maladies.
Mm-hmm. 49,4 %.
Pardon?
49,4 %.
Oui, exact, bien précisément. Alors, là, on voit aussi que au niveau du ministère de la Santé, sur $1, il y a comme 2 sous qui vont en prévention, puis les 98 autres sous vont pour soigner les gens. Donc, avec le vieillissement de la population, avec les impacts négatifs des changements climatiques, bien, c'est clair que la prévention s'impose pour, je dirais, on doit avoir un réflexe, on doit mieux comprendre qu'est-ce qui crée de la santé à long terme, donc de la santé durable. Et puis, il faut qu'on en fasse un idéal collectif. Parce que au 31 décembre puis au mois de janvier de chaque année, on souhaite la bonne santé, tous nos vœux. Mais après, c'est comme si ça devient un sujet qui est occulté. Il ne devient pas au cœur de toutes nos décisions. On peut penser nos décisions individuelles, personnelles, celles de nos familles, mais aussi celles des gouvernements, de nos municipalités et aussi des entreprises, parce que je dirais que la santé durable, c'est vraiment une responsabilité individuelle et à la fois collective.
Oui. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez envie de solliciter ou d'interpeller plusieurs intervenants. On parle beaucoup du gouvernement, Lucie Granger, mais également, il y a les municipalités qui ont à voir, les entreprises, comme vous le dites. Quels sont leurs rapports à ce projet de santé durable?
Bien, je vous dirais, prenons le palier de gouvernement le plus proche de la population, que sont les municipalités. J'aime bien citer... Denis Lapointe, qui est président, qui est maire de Salaberry-de-Valleyfield et qui est président du regroupement Ville et Village en santé, il dit souvent que 80 % des décisions qui sont prises au conseil municipal ont un impact sur la santé de sa population. Mm-hmm. Alors, on parle ici de quoi? On parle de fontaines d'eau. Je vais vous donner des exemples bien précis, concrets. Moi, quand j'étais petite, on se promenait pas avec une bouteille d'eau. Oui. Il y avait des fontaines, on pesait sur le petit bouton, puis on avait de l'eau. Alors là, dans nos municipalités, il faut pas perdre de vue que si on a accès à des fontaines, bien évidemment, un, c'est sain, les jeunes peuvent piler, les moins jeunes peuvent boire de l'eau en toute sécurité, hein, on le sait, notre eau, elle est bonne. Alors, ça, c'est une des choses. Évidemment, si on évite de prendre de l'eau embouteillée, bien, au niveau... du développement durable, ben notre empreinte écologique, elle est moins importante.
Oui.
Alors, bon, ça, c'est un exemple. Je pourrais vous parler de transport collectif. Hein? Quand on intègre dans notre quotidien de prendre les moyens de transport en commun ou de marcher un bout pour se rendre soit au métro ou bien à l'autobus ou encore directement au travail, bien c'est clair que quand on intègre dans nos habitudes de vie le fait de se déplacer, bien c'est ça reste dans nos habitudes. On est capable de maintenir ce rythme-là. Parce qu'on le sait, hein, on est tous hyper sollicités avec des agendas très, très chargés. Alors, quand on emprunte le moyen de transport en commun, encore une fois, au niveau des changements climatiques, ben il y a moins d'émissions de gaz. Il y a aussi, on reste, je dirais, en forme.
Aussi.
Alors, oui. Voilà. Donc, c'est des exemples concrets, je vous dirais, qui sont, à mon sens, des éléments qu'il nous faut intégrer petit à petit dans notre quotidien, des habitudes qu'on veut conserver.
Et qui soient au cœur de nos préoccupations et des préoccupations de nos décideurs. Lucie Granger, je veux absolument que l'on parle d'un point fort intéressant dans cet énoncé de position, à savoir accroître le niveau de littératie en matière de saines habitudes de vie. Important parce qu'on en parle très peu. On fait d'immenses campagnes de prévention en matière de santé pour promouvoir, par exemple, de saines habitudes de vie, le transport collectif, mais on ne s'assure pas que tous les membres de notre population peuvent saisir le message.
Bien, vous avez raison. C'est un des défis qu'on a, je dirais, identifié. Et puis, bien, si on parle un peu de la littératie en santé, ça se résume à savoir lire du matériel sur les soins de santé au sens large du terme. Ça consiste à pouvoir utiliser des compétences qui sont complexes. Je vais vous donner la définition, puis on va l'expliquer ensemble. Quand on parle de... Il y a comme une gradation. Et quand on dit que au Québec, 66 % des personnes âgées de 16 ans et plus présentent des niveaux de compétences inférieurs au niveau 3, ben on parle d'une capacité d'intégrer l'information contenue dans un texte qui peut être long ou dense, puis d'intégrer de multiples renseignements et de comprendre de l'information mathématique présentée sous différentes formes. Bon, ces tâches-là comprennent en général plusieurs étapes ou des processus à suivre pour résoudre des problèmes. Je vais aller bien concrètement. Quand on regarde sur l'emballage d'un médicament comme le Tempra pour les tout-petits,
oui. Hein,
la posologie pour les enfants, j'ai un exemple sous les yeux.
Révélateur.
On parle de moins de 3 mois, moins de 13 livres, c'est un demi compte-goutte. Puis après ça, le sirop, c'est un quart de cuillère à thé. Puis après ça, si c'est des comprimés croquants, c'est de 80 mg, il y a une autre information. Puis le comprimé croquant de 160 mg, il y a une autre information. Dans le fond, puis il y a toute une panoplie là, sur l'étiquette. Mais là, quand on se retrouve à la maison, qu'on a un tout petit qui va pas bien, puis qu'on veut lui administrer, je vous dirais que quand on parle de cette difficulté-là, bien, je vous dirais, il y a oui. comme la difficulté de l'individu, mais il y a aussi les entreprises dans leur façon de communiquer
tout à
l'information,
fait. Tout
vous comprenez? Mais on comprend que les compagnies, elles veulent donner le plus d'informations possible parce que leur objectif, malheureusement, parfois, c'est de s'assurer de ne pas être oui. poursuivi. Alors, ils en mettent de l'information.
Lucie Granger, je vous arrête ici. Important de rappeler que cet énoncé de position a été rédigé par les médecins Jean Rochon et Richard Lessard. On peut le retrouver sur votre site aspq.org. Énoncé de position, bâtir la santé durable du 21e siècle. Merci beaucoup, Lucie Granger, directrice générale de l'Association pour la santé publique du Québec.
Merci à vous.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, c'est Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été des nôtres. Et puis on se donne rendez-vous, nous, demain, 14h. Portez-vous bien. Bye bye.